Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Pendant que les déclarations d'intention se poursuivent à propos d'hypothétiques travaux de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et également pendant que de jeunes zadistes se font matraquer à côté d'un hypothétique barrage à Sivens, ce matin, on prend du champ. On s'interroge sur l'avenir possible d'une ZAD, zone à défendre. Une bouffée d'air frais. Quel avenir pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? C'est une question qui se pose à plus d'un titre. D'abord parce qu'on arrive à la fameuse période où les recours vont être jugés. Il va y avoir des décisions. Et puis, cette question se pose aussi parce que de fait, quelque chose s'est installé. Une forme de vie inattendue dans un lieu qui est gelé depuis près de 40 ans, voilà 40 ans, même plus de 40 ans, oui. Voilà 41 ans cette année que le bocage de Notre-Dame-des-Landes est gelé en prévision d'un hypothétique aéroport qui devait voir le jour à l'époque du Concorde, qui n'est toujours pas là, le Concorde non plus n'est plus là. Une vie donc s'est installée et... Les gens commencent à penser à la suite. La suite, si ce projet d'aéroport n'aboutit pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question qui commence à être reprise, discutée, débattue, et qui est étonnamment fertile en réflexion, discussion, débat. Avec nous pour en parler ce matin, quatre personnes, des occupants, des paysans, Cyril Bouligan, Maëlle Latimier, Camille, Marcel Thébault. On va peut-être commencer par vous parce que vous êtes le plus ancien. Ici, vous êtes arrivé il y a 15 ans et vous vous êtes installé dans une ferme.
Oui, donc avec mon épouse, on s'est installé sur... On a repris une ferme pour produire du lait ici à Notre-Dame-des-Landes. Quand on s'est installé, le siège de l'exploitation n'était pas sur la ZAD. Et en 2003, avec modification de l'emplacement de la ZAD, en fait, tout le village dans lequel on est s'est retrouvé à l'intérieur de la ZAD. Quand on est arrivé, le cédant nous a dit « On m'a conseillé de ne pas vous en parler, mais je voudrais vous le dire quand même. Il y a un projet, voilà, pour l'instant il ne se passe rien, mais il y a un projet qui dort dans les tiroirs. » Là. Voilà, et donc nous, on n'est pas venu ici à cause du projet d'aéroport pour lutter contre, etc. On est venu parce qu'on cherchait une ferme depuis longtemps, que ce n'était pas facile, que ça faisait 2 ans qu'on cherchait, et que ce qu'on a trouvé ici en termes de parcellaire, de bocage, d'ambiance, de voisinage avec les agriculteurs en place, nous convenait bien. Et donc on a pris le risque de s'installer sur cette exploitation, et l'année d'après, le projet d'aéroport était relancé. Et voilà. Donc
avec quelles conséquences pour vous ?
Eh bien, l'exploitation était complètement remise en cause, puisque même à cette époque-là, les meilleures terres et les plus proches des bâtiments étaient pris dans l'emprise de l'aéroport, et donc l'exploitation n'était plus viable. Et après 2003, bah, c'est tout le siège et puis 25 hectares parmi 65, mais enfin, les mêmes proches des bâtiments, etc., qui sont concernés. Donc notre exploitation est supprimée si l'aéroport se fait. Donc nous, on s'est toujours... on s'est d'abord positionné en tant que personne contre le projet, plus que pour défendre notre exploitation. Mais on s'est retrouvé de fait de plus en plus impliqué dans l'opposition à cet aéroport, en faisant partie des agriculteurs qui ont systématiquement refusé tout processus de négociation, et donc on est allé à l'expropriation. Voilà, et aujourd'hui on est très concerné par le voisinage que l'on a autour, par le village ici où il n'y a que des gens qui s'opposent à l'aéroport dans notre voisinage. Et on vit ce que vous avez décrit un peu, c'est-à-dire ce... Nous, jusqu'en 2004-2008, on a encore eu des projets, etc. Mais là, on est bien une exploitation qui est relativement figée, parce qu'on n'ose... Enfin, on n'osait plus investir avec cette épée de Damoclès sur la tête. Et aujourd'hui, on aurait envie d'agrandir un peu des bâtiments, de faire des choses comme ça. On n'a même plus le droit. Enfin, c'est, voilà, c'est chez nous, c'est pas chez nous à la fois. On est dans des situations un peu bizarres et donc on est complètement bloqué dans nos projets, quoi.
Ce qui doit concourir à cette ambiance un peu étrange, c'est le fait que d'autres ont accepté la situation, ont vendu, des maisons se sont vidées, des fermes sont mortes, des terres se sont retrouvées en friche, libres. Et c'est dans cette ambiance un peu crépusculaire que des gens sont venus s'installer. Camille, vous en faites partie. Vous êtes arrivée parmi les premiers, les occupants, ceux qu'on a appelés les occupants de la ZAD, qui sont devenus ensuite les ZADistes.
Ben ouais, voilà quelques années. C'est pas non plus une situation où il y avait beaucoup de terres en friche. Un des objectifs principaux des paysans qui s'organisent ici contre l'aéroport, c'est de maintenir les terres en état cultivable. Du coup, ils ont toujours bataillé pour pouvoir exploiter même les terres dont les exploitants partaient, signaient ou négociaient. Du coup, il y avait assez peu de friches. Il y avait à cette époque pas mal de maisons dont les gens avaient accepté de partir, ou des maisons qui n'avaient pas été relouées. Des terrains ou des maisons avaient été détruites et voilà, petit à petit, des occupants, particulièrement à partir de 2009, des occupants sont venus s'installer, construire ou occuper des maisons qui étaient vides.
Vous êtes venu pourquoi ?
Pourquoi je suis venu ? Je pense parce que c'est une situation qui me paraissait intéressante, de se trouver prise dans une lutte qui va durer des années, en fait, de savoir que mettre un pied là-dedans, c'est construire un truc sur des années et réfléchir des situations qui sont assez complexes, parce que ce projet est complexe, et puis la complexité de la résistance avec tous les groupes, les enjeux, les composantes différentes qu'il y a, c'est toujours très compliqué et du coup intéressant à, à regarder, à savoir quoi faire là-dedans, qu'est-ce qui est malin de faire dans une situation aussi complexe. Ça a été une grande raison, en fait, de se dire, voilà, pendant des années, ça va être ça. Et de construire des trucs sur du long terme, et en même temps dans une situation à la campagne rurale, et en même temps dans une situation de lutte. Parce que là, ce qui me paraît intéressant dans une situation de lutte, c'est une situation de rencontre, avec des moments un peu explosifs où il y a plein de monde et plein de rencontres entre des mondes différents, et qui n'auraient sûrement rien eu à faire ensemble en dehors d'une lutte comme ça, en fait. Les perspectives de transformation de ce monde ou de révolution, elles peuvent passer que par ça, de décloisonner en fait entre des mondes, quoi. Que...
De fait, ça s'est vraiment passé ici.
Ouais, c'est un truc qui se passe un peu en continu, avec des moments où ça va un peu plus vite, un peu plus fort, des moments où ça, ça va un peu moins vite, un peu moins fort. Mais oui, mais c'est ça qui est super important ici, pour moi. Mais du coup, des brassages en termes de qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi. Pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est à quoi on s'affronte de ce monde-là. Chacun de où on est, on s'affronte à des choses qui sont différentes. On a des problématiques dans ce monde qui sont différentes, mais c'est un même monde qui nous fait vivre des problématiques difficiles. Du coup, c'est, pour moi, c'est aussi capter c'est quoi des enjeux pour des paysans, là, et c'est quoi qui est difficile, et un peu réciproquement, de comprendre des trucs comme ça, sachant que c'est un même monde capitaliste fait vivre ces choses-là, en fait, et qui... Enfin, des enjeux économiques, là, ou de systèmes économiques qui font vivre ça.
Mais là, vous dites, c'est quoi les enjeux pour des paysans ? Vous vous mettez dans le lot des paysans ou...
Non, je rencontre et j'essaye de comprendre. En partant d'un endroit où je ne suis pas paysanne, et d'essayer de comprendre c'est quoi les enjeux pour les agriculteurs et paysans ici. En fait, à quoi ils s'affrontent ? Et à travers ce projet d'aéroport, et aussi plus largement.
Il y a aussi les enjeux auxquels vous vous affrontez, vous vous confrontez. Vous, en tant qu'occupante, sans titre.
Eh ben ouais, je m'affronte. Je ne sais pas à quoi je m'affronte. De choses passionnantes. En tout cas, c'est une situation de précarité matérielle assez forte, que ce soit la possibilité d'expulsion et du coup de se faire virer de tout ce que j'ai ici matériellement. Mais cette précarité-là, pour moi, elle n'est pas centrale, dans le sens qu'il y a énormément de solidarité, qu'on est dans des processus d'organisation collective et d'autonomie. Ça veut dire, pour moi, l'autonomie, s'organiser hors des institutions et s'organiser ensemble. Et ça veut dire on fait en sorte de pouvoir compter les uns sur les autres. Et ça amène une manière de sécurité ou de force qui permet de se mettre en danger matériellement. Enfin, de pouvoir être expulsé, sachant qu'il y aura la solidarité de tout un tas de gens et que, ensemble, on est fort à résister à ça.
Cyril Bouligan, vous êtes paysan, vous aussi ? Vous avez des vaches laitières ?
Oui, je suis paysan à Fellbretagne, à 15 km d'ici. C'est le même canton que Notre-Dame-des-Landes. Donc j'ai des vaches et terres avec ma sœur. Voilà, puis je me retrouve dans cette lutte, que c'est quasiment la moitié de mon temps aussi aujourd'hui, parce qu'on a mis un pied dedans, puis on n'a pas réussi à s'en sortir, et puis on passe plus de temps.
Vous êtes sur la zone ?
Non, 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 moi j'habite à 15 km là, donc on est en dehors de la zone, pas du tout concerné, pas du tout impacté par le côté foncier, on n'a pas de terre sur la ZAD, rien de tout ça. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus serein dans la lutte, de ne pas avoir cette préoccupation en fait d'être expulsé ou d'avoir une emprise sur notre ferme, sur notre activité.
En fait, vous dites, on s'est retrouvé dans cette lutte, à un moment vous avez choisi de vous joindre à cette lutte.
Ouais, c'est une lutte dans... au niveau du milieu agricole, en fait, dans la Loire-Atlantique, c'est une lutte qu'on entend depuis très longtemps, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 40 ans. Et surtout dans ce territoire proche de Notre-Dame-des-Landes, forcément, on est né avec, en fait, on a toujours entendu parler, même si des fois, il était endormi. Et quand ça s'est réveillé, je pense 2008 un peu, là, où il y a la DUP qui a été créée.
Moi, la DUP, c'était la déclaration d'utilité publique, voilà, qui transférait les terres à l'État, directement.
Voilà, tout à fait. Et du coup, moi, j'étais jeune installé, ça faisait 2 ans que j'étais installé, et je me suis retrouvé, en fait, voilà, en tant que paysan, donc peut-être plus facilement légitime, en fait, à défendre ce territoire et à être contre ce projet. Et du coup, petit à petit, voilà, je me suis installé dans cette lutte, quoi. Et après, par le biais de copains.
Alors, qu'est-ce que c'est que copains ?
Alors, copains, c'est le collectif d'organisation professionnelle indignés contre le projet d'aéroport.
Les agriculteurs indignés.
Voilà, c'est donc les agriculteurs, mais pas tous non plus. C'est, en fait, ça représente 6 structures syndicales ou associatives du département.
Vous avez créé ça en 2008 ?
2011. Donc en gros, ça regroupe la Confédération Paysanne, le GAB, le Groupement des Agriculteurs Biologiques, le CIVAM, qui est une association sur, au niveau rural, Terroir 44, qui est plus une association sur la distribution de produits locaux, et puis Manger Bio 44, qui est aussi en fait tout ce qui est distribution de produits bio dans l'Atlantique.
C'est donc un certain nombre d'organismes, d'organisations paysannes qui se sont regroupés pour déclarer collectivement leur opposition à ce projet d'aéroport qui détruit des terres agricoles.
Voilà, tout à fait. En fait, chaque structure un peu le faisait de son côté, d'une façon individuelle. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait peut-être faire ça ensemble. D'une, pour être plus fort et pour pouvoir monter des opérations peut-être plus importantes. Et la deuxième aussi, c'est que c'est tout ça, c'est des associations qui sont financées par le Conseil Général et la région. Donc on avait peur, et ce qui a été le cas par moment, une pression financière en fait, individuelle de chaque structure, du fait qu'on soit contre ce projet. Alors qu'aujourd'hui, en fait, d'être ensemble, on est plus dur à attaquer. En fait, quoi. Donc c'est ça l'origine de Copain. Et du coup, on avait monté ça dans le but vraiment de soutenir les paysans impactés par le projet, donc des gens comme Marcel et bien d'autres, en fait. Et c'était vraiment ça le but au début de Copain, en fait. On avait cet objectif-là. Nous, en tant que paysans, on n'est pas impactés, mais on a l'énergie, en fait, pour venir soutenir ceux qui sont impactés.
C'était un soutien moral, matériel ?
Moral, matériel, pour les manifestations. Et puis aussi, ça, il y avait des combats syndicaux aussi, de présence, côté juridique aussi, parce qu'il y avait donc tout ce que vous voulez là. Et très vite, après, on s'est rendu compte, en fait, surtout après l'opération César, en fait, 2012.
L'opération César qui a consisté à détruire...
À l'essai, en fait, d'expulsion, en fait, des occupants illégaux de la ZAD et de détruire les maisons dures.
Voilà.
Donc ça, c'était à l'automne 2012. Et là où ça a été très médiatisé aussi, le projet au niveau national, parce que je crois que c'était un projet qui était connu départemental avant, mais pas forcément au niveau national. C'est à l'automne 2012 qu'on a entendu parler de ce projet. Et du coup, nos copains, ça a pris une deuxième ampleur, en fait, où que, la priorité a toujours été le soutien, en fait, aussi aux paysans. Mais on a rencontré aussi les occupants de la ZAD. Et on a vu aussi que là, il y avait un enjeu aussi à défendre ce territoire aussi, pour ces gens-là. Et qu'ils avaient des choses à nous apprendre aussi. Et voilà, c'était un moment aussi. On a pris une deuxième virage au sein de copains, en fait, de dire on est là pour défendre les paysans, mais aussi, en fait, pour défendre, on est partie prenante à part entière de la lutte en général, de la lutte contre ce projet d'aéroport. Et la rencontre en fait avec les gens de la CIPA, donc l'association citoyenne, mais aussi les occupants de la ZAD, ont permis en fait d'élargir en fait cette activité.
Élargir aussi les formes d'action.
Formes d'action. On s'est retrouvé, je peux prendre juste l'exemple de la ferme de Bellevue, où on s'est retrouvé squatteurs, nous paysans en fait, donc c'est pas un métier qu'on connaît forcément, et qu'on a appris grâce en fait aux rencontres avec les occupants de la ZAD. Ouais, donc la ferme de Bellevue, c'est la première ferme que l'exploitant a arrêtée, vraiment en fait suite au projet. Et du coup, on le surveillait parce qu'on savait qu'il avait signé, qu'il allait partir. Et du coup, il a déménagé le dimanche. Et le dimanche soir, on a débarqué avec nos tracteurs pour bloquer l'accès à cette ferme. Autrement, elle aurait été détruite, en fait, le lendemain matin. Et du coup, on a décidé de l'occuper, nous, en tant que collectif de paysans. Du coup, on s'est nommé, en fait, en tant qu'occupant illégaux de cette ferme. Donc, ça veut dire procédure judiciaire et tout ça. Donc, des choses qu'on a apprises par la rencontre avec les squatteurs, parce qu'on ne connaissait pas ça. Et aujourd'hui, c'est une force qu'on a, en fait, c'est que cette ferme nous permet d'avoir un pied à terre, entre guillemets, en fait, sur la zone, et qui nous permet vraiment de capter tout l'enjeu qu'il y a. Et comme le disait tout à l'heure Camille, les différentes ambitions, les différentes difficultés, ou les différents enjeux qu'ont les différentes composantes dans la lutte, bah, ça a permis de bien les comprendre. Et qu'aujourd'hui, pour nous, c'est important d'être sur place, quoi. Et quand on va parler de l'avenir, je crois que on aurait du mal à parler, nous, au niveau de copains de l'avenir, si on n'occupait pas Bellevue aujourd'hui, quoi.
Et vous, Maëlle Latimier, comment est-ce que vous êtes arrivé ici, dans cette histoire ?
Moi, je suis arrivé en 2011 avec aussi l'envie de rejoindre cette lutte. Moi, je fais partie, on va dire, d'une mouvance libertaire, anti-autoritaire qui se cherche toujours. Et puis, j'avais l'impression que sur la ZAD, après l'appel à occupation lancé par les habitantes qui résistent en 2009, il y avait un territoire sur lequel, en fait, on pouvait construire sur du long terme, en fait, en même temps, une envie de vivre les choses autrement et aussi une lutte au sens large qui se contenterait pas d'être quelque chose revendicatif. Vous voyez, genre, je travaille toute la semaine dans des bureaux et puis le samedi, je descends manifester pour me donner un petit peu bonne conscience, ou alors le modèle encore zéro de la politique qui serait d'aller voter une fois tous les 5 ans et de considérer que si je choisis entre le candidat PS et le candidat UMP, bah alors là j'ai fait œuvre de citoyen. Mais j'avais l'impression qu'il fallait, en tout cas à titre personnel pour moi, plus que ça, et que mon envie de changer les choses, elle s'inscrivait dans une envie de s'inscrire dans ce long terme et sur un territoire en lutte.
Mais alors, on entend bien, en vous écoutant les uns et les autres, que les motivations, les aspirations sont très différentes au départ. Entre ce que Maëlle Latimier vient de dire, une sorte de terrain de lutte pour construire un modèle différent de vie, et Marcel Thébault, votre envie d'avoir une exploitation, de pouvoir l'agrandir lorsque vous avez besoin d'agrandir un bâtiment, le fait de pouvoir vous occuper de vos vaches, comme vous l'entendez, il y a des différences énormes. Alors, est-ce que ces rapprochements que vous avez évoqués les uns et les autres, ces frottements qui font que vous êtes mieux connus, mieux compris, est-ce qu'ils s'articulent uniquement autour de la lutte contre l'aéroport, ou bien est-ce que ça a créé des choses plus profondes ? Marcel Thébault, peut-être ?
C'est difficile de répondre à ça. Déjà, s'articuler autour de la lutte contre l'aéroport, globalement, je pense qu'on a...
Ça peut servir de ciment, quand même.
Oui, non, mais c'est le premier truc à réussir, quoi. Et c'est un travail constant de le réussir et d'articuler cette diversité pour être plus efficace ensemble. Ça coule pas de source, quoi. Donc, je pense que déjà, ça nous occupe à 90%, quoi.
Donc c'est pas donné, quoi. C'est pas gagné d'avance.
Ah non, c'est pas gagné. C'est loin d'être gagné d'avance. Une des premières étapes, c'est de se rencontrer et pas seulement de se croiser. Déjà ça demande du temps. Globalement, le basculement, il s'est surtout fait avec l'opération César. C'est-à-dire, nous personnellement, on avait des relations de bon voisinage, on allait acheter du pain sur la ZAD ou des choses comme ça. Donc on connaissait un certain nombre de personnes. Voilà, on avait parfois quelques discussions sur qu'est-ce qu'on peut faire ou chose ou autre. Mais quand même, je pense qu'on n'était pas allé très loin dans les relations. La première chose ici, ça a été quand il y a eu une proposition de squat au Limimbou, quoi. La maison derrière chez nous avait été vendue. Elle était gardée par des vigiles, des gens qu'on connaissait, et pas tous.
Vendu, en fait, ça signifie vendu à Vinci.
Vendu à Vinci, oui.
Voilà.
Oui, oui, c'est-à-dire que le voisin avait accepté l'expropriation, négocié sa maison, voilà. Donc il n'y avait plus rien. Donc,
c'est ça, elle n'était pas destinée à être réoccupée, mais simplement
voilà, donc, à passer comme, dans l'escarcelle. Comme tant d'autres, comme beaucoup d'autres tout autour, quoi. Mais pour nous, ben, le vide commençait un petit peu à se faire, quoi. Des squatteurs sont venus nous voir en disant bah, « Ouli Mimbou, maintenant il ne reste plus que des gens qui sont contre l'aéroport, il y a une maison vide, nous on trouverait bien qu'elle soit occupée, qu'est-ce que vous en pensez ?» quoi. Et puis, voilà, il y a eu quelques réunions, etc. Et donc, l'action de squatter cette maison-là s'est mise en place. Mais voilà, nous, ce qui nous a surpris, c'est que ça s'est fait tranquillement et en concertation et en écoute vraiment avec les braves gens qui étaient ici, avec leurs propres réticences et en les écoutant, etc.
Les réticences, elles étaient de quel ordre? Est-ce que c'était une crainte? Alors,
c'est d'avoir des gens différents, déjà. C'est quand même... voilà, ils sont jeunes, ils sont étrangers... On dit plein de choses sur eux, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Un certain nombre ont des chiens, donc nous on a des vaches, s'il y a des chiens qui circulent librement, tu vois, ça c'est un vrai problème. Un autre voisin a dit, Limambou c'est calme, hein, moi 10h du soir, moi je ne veux vraiment pas entendre de bruit. Hein. Voilà, enfin c'est aussi des choses simples comme ça, quoi. Enfin, puis derrière, la peur qu'il y ait beaucoup de monde, tu vois, que voilà, qu'il y ait tout le temps plein de voitures, que ça puisse plus circuler... Et donc là, la façon dont, enfin nous, on a vraiment été très sensibles à la façon dont ça s'est fait, ça s'est mis en place, quoi. Et puis le fait de faire cette opération-là voulait dire qu'on bloquait quand même les routes, que les flics allaient sans doute débarquer, comment on allait gérer ça avec les flics, tu vois, il y avait quand même tout ça, quoi. Donc c'était un grand pas en avant, quoi. Et ce qui était extraordinaire, c'est quand ce squat-là s'est fait, on savait que les flics débarquaient la semaine suivante, quoi. Donc c'était le dernier pied de nez. Tout le monde savait, et on ne savait pas quel serait l'avenir après, quoi. On savait qu'ils allaient débarquer en force pour chasser les zadistes. Eh bien non, la veille, on squatte encore une maison, et on le fait tous ensemble. C'est aussi un des éléments qu'on trouvait chouette, c'est qu'ils nous disent, écoute, tout à l'heure, nous, on peut le faire, nous, tout seul, tranquillement, mais vraiment, on aura à moitié raté si on le fait que nous, quoi. Faut que ce soit tout le monde ensemble. Pour nous, personnellement, ça a été le premier pas en avant dans du côtoiement chaleureux, intensif, et des actions communes, quoi.
Mais ça s'est arrêté avec l'intervention de la police?
Ah ben le squat s'est arrêté, mais ils sont débarqués le lundi matin, il n'y avait plus personne. Pendant cette opération César, ils ont rasé la maison, emmené les... Voilà. Nous, quand ils étaient en train de détruire la maison, tu vois, nous on était en train de défendre notre territoire, nous, en disant là c'est chez nous, et vous faites pas ce, parce que là nous on n'est pas encore expropriés. Dans un an vous aurez peut-être le droit, mais aujourd'hui je vous interdis de mettre les pieds chez nous. Mais quand tu dis ça à un CRS, il bouge pas. Tu vois, alors il faut que tu appelles le chef vient, il dit oui, là on recule, etc. Et voilà, il y avait des copains qui venaient, qui gueulaient sur la machine, qui détruisaient la maison, et nous, on leur payait le café, quoi. On est des CRS, enfin... Je veux dire, tu vois, c'est le... Chacun à sa place, tu fais un truc où tu te sens bien, et l'ensemble a vraiment du sens, quoi. Et voilà, bon, c'était les débuts, et ça a continué, quoi. Mais voilà, et par rapport à cette opération, donc cette maison-là, deux derrière Bellevue, tu vois, s'ils avaient détruit Bellevue, nous, on aurait eu l'impression, en tant que paysans résistants, d'être dans un désert humain, quasiment, là. Hein, tu vois, les quelques Gaulois, on se serait senti infiniment fragile, quoi. Donc que ces maisons-là, après, soient réoccupées, c'est vachement important. Que la ferme de Bellevue ait été occupée et ne soit pas détruite, c'est une réussite magnifique qui fait qu'on était un peu tremblotants, nous, en tant que paysans, avec l'idée quand même, on connaît un peu notre métier maintenant, on a un troupeau, on voudrait continuer. Si on est dehors, on fait quoi? Le paysage, il a complètement changé, quoi. On se dit, ils ne sont pas prêts de nous mettre dehors maintenant, quoi.
Parce que ces occupations et réoccupations, elles ne se sont pas contentées d'amener des jeunes étrangers avec des chiens qui parfois veillent tard la nuit. En fait, il y a eu énormément de travaux pour semer, pour faire des cultures, pour mettre en culture tous les champs, et enfin tous les champs, j'exagère, mais en tout cas les champs, il y a des abeilles, il y a des vignes, il y a du blé qui pousse, enfin il y a énormément de choses qui ont été faites. Maël Latimier ?
Les travaux des champs, et puis pas que, parce que c'est vrai que les gens qui se sont installés ici se sont installés avec l'envie de s'inscrire dans du long terme, et que s'inscrire dans du long terme, ça passe d'abord sans doute par une forme d'autonomie alimentaire. Donc vous l'avez dit, il y a eu... dans le sein d'un collectif qui s'appelle Semtazad, qui est un collectif qui regroupe les copains et les copines occupants qui ont l'envie de projets agricoles, et puis aussi copains et les paysans du tour, du coin.
Copains, c'est-à-dire l'association dont nous parlait Cyril.
Dont parlait Cyril, oui, tout à fait. Donc il y a des moments de discussion, il y a des envies d'occuper les terres par des activités agricoles. Mais l'occupation des terres, elle passe pas seulement par des activités agricoles. Il faut comprendre que quand on parle d'envie d'autonomie au sein du mouvement d'occupation, on parle de mettre en place nos propres médias. Et aujourd'hui, il y a un journal qui circule dans tous les lieux occupés toute la semaine. Il y a une radio qui s'appelle Radio Klaxon qui pirate les ondes de Radio Vinci. Et ça, c'est toujours un régal.
Sur 107.7 ?
Sur 107.7, oui. Il y a un site internet parce qu'on fait confiance aux journalistes, mais quand même, si on peut être nos propres médias, on trouve ça quand même vachement plus rassurant. Il y a une équipe médic qui est toujours en formation et qui fait en sorte de pouvoir répondre aux besoins de premier secours sur la zone. Il y a plein de choses qui se font. Il y a des gens qui ont remonté des forges, il y a des gens qui ont remonté des ateliers de teinture, il y a un atelier couture qui s'est monté à Bellevue. Il y a plein de gens qui arrivent souvent de la ville et qui ont plein d'envie d'apprendre, de se réapproprier leur vie, vous voyez. Et qu'il y a des gens qui arrivent il y a 4 ans et qui ont construit des cabanes archi dégueu avec des bouts de plastique, de bâches et de palettes et qui aujourd'hui sont capables de construire des maisons avec une étage, avec quasiment que du matériel de réoccupation et qui après vont transmettre aussi ces savoirs-là. Donc c'est aussi ça qu'on construit. L'occupation du territoire, elle s'inscrit dans des activités agricoles, mais pas seulement.
Oui, Cyril Bouligan.
Mais du coup, je veux bien un peu revenir sur Semtazad, quand même, qui a été, je pense, un moment important en fait dans cette lutte. Il y a eu l'opération César, en fait, où donc là, ils ont essayé de nous expulser. J'utilise nous parce que plus ça, plus je me considère un peu occupant ou habitant ou squatteur ou je sais pas de quoi de cette zone, mais. Et en fait, ils n'ont pas réussi, en fait. Et en printemps 2013, suite à ça, en fait, on a commencé vraiment à se dire, bah, on est peut-être capable, en fait, de gagner cette lutte. Et on s'est dit, bon, bah voilà, on a réussi à occuper le terrain par l'habitat, mais maintenant, il faut peut-être aussi penser, justement, aux terres écoles, et que c'est d'autres formes aussi d'occupation. Et du coup, il y a eu une opération Semtazad qui a été faite en avril 2013, où il y a eu un appel, en fait, à large, à dire, bah, tous les collectifs, tous les gens qui veulent venir, en fait, monter des projets sur la zone agricole ou vivrier ou d'autonomie alimentaire, ben, que la porte est ouverte. Du coup, ça s'est symbolisé par une marche, en fait, et des différents projets qui sont montés un jour d'avril 2013. Et du coup, ça continue, ça perdure. Et aujourd'hui, on occupe, en fait, quasiment plus de 200 hectares, en fait, illégalement aussi. Donc, il y a des lieux d'occupation d'habitants, mais il y a aussi plus de 200 hectares qui sont occupés sur la ferme de Bévure et sur tout le territoire de la ZAD, qui aussi dans la perspective de après, en fait, que si on gagne, bah, en fait, cette terre-là, on ne veut pas qu'elle devienne n'importe quoi. Et c'est en l'occupant qu'on estime qu'on peut emmener un rapport de force, en fait, pour l'avenir, quoi.
Mais voilà, là, justement, vous posez la question clé, c'est et demain ?
Et demain ?
Demain, si l'aéroport disparaît, est effacée. Qu'est-ce qui se passe ? Ces terres, vous avez dit, on les occupe illégalement. À qui est-ce qu'elles appartiennent aujourd'hui ? À qui est-ce qu'elles iraient, retourneraient ou justement pas retourneraient, mais à qui est-ce qu'elles pourraient appartenir demain ? Est-ce que vous resteriez dans un statut d'illégalité ? Est-ce qu'au contraire, vous chercheriez à retrouver une certaine forme de légalité ? Si oui, laquelle ? Enfin, ça en fait des questions.
Oui, je ne répondrai pas à toutes les questions.
Non, mais vous êtes quatre.
On est quatre. Et je ne sais pas si on est capable de répondre ce matin à toutes les questions, mais juste, la situation est très complexe en plus. Parce que peut-être que chaque parcelle a une situation différente, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les terres appartiennent à l'État et sont en concession pendant 55 ans à Géo Vinci.
Une partie des terres appartient à l'État, ou bien toutes les terres ?
Toutes les terres.
Toutes les terres aujourd'hui.
Même la partie qui est à l'expropriation aujourd'hui, bah, le procédé d'expropriation est quasiment fini. Et du coup, tout appartient à l'État, quoi. Donc si la DUP, donc le décret d'utilité publique, saute, ça revient de fait à l'État, parce que la concession arrête et ça revient à l'État. Après, ça c'est la question de la propriété, à bien différencier à la question de l'usage. Je ne sais pas s'il faut qu'on rentre dans le détail technique, quoi, mais dans l'usage, en fait, il y a les paysans qui ont à l'expropriation. On va reprendre l'exemple de Marcel et Sylvie et d'autres. Aujourd'hui, ils sont 11 exploitants, en fait, et paysannes à avoir été à l'expropriation.
Aller à l'expropriation, ça signifie être resté, s'être arc-bouté sur les terres et avoir refusé de vendre
ou d'avoir... alors, le terme, c'est... De recevoir une indemnité pour refuser, en fait, d'accepter de les exploiter.
C'est-à-dire que vous avez continué à exploiter, quoi qu'il arrive.
Et rien toucher aussi.
Et sans prendre d'argent.
Oui, c'est ça.
Oui, oui. refusé toute négociation pour bien montrer que c'était un processus qui nous était imposé, qu'on ne le choisissait pas. Et donc, c'est le juge d'expropriation qui tranche entre la proposition financière d'AGO et la demande que l'on fait en réponse, quoi. Mais juridiquement, c'est très important. Toute négociation qui se fait en dehors de ça, même si elle est longue, c'est une négociation amiable. C'est-à-dire que sur le principe, finalement, on a été d'accord pour renoncer à exploiter ces terres.
Voilà,
et donc, on doit le faire. Nous, on n'a pas été d'accord et le juge fixe le montant. Mais la différence fondamentale, c'est que si demain le projet s'arrêtera, nous, notre position a toujours été claire et de fait, suffit qu'on le demande et on retrouve automatiquement nos droits d'avant la déclaration d'utilité publique.
Tandis que ceux qui ont accepté les conditions proposées par l'État et par Vinci ont de fait vendu leurs terres. Ils ne sont plus propriétaires de ces terres, ils ont accepté. Voilà.
Alors, ils ne sont plus propriétaires et pour les exploitants, ils ne sont plus titulaires d'un bail puisqu'ils ont renoncé à ce bail. Ce qui fait une différence tout à fait
très importante,
fondamentale
pour la suite.
Sur le plan juridique et je dirais sur le plan moral aussi, quoi. Et alors, c'est vrai que c'est compliqué, comme le dit Cyril, parce qu'on peut avoir des collègues agriculteurs qui ont signé Amiens mais qui viennent avec nous au manif et qui pensent vraiment que ce projet, c'est de la connerie. Mais simplement, ils ont eu une... ils ont dit l'État est plus fort que nous et donc ils ont accepté la proposition.
Ce qui complique encore la donne, si je ne m'abuse, mais vous me rectifierez si je me trompe, c'est que dans la mesure où il n'y a pas de travaux engagés sur ces terres, Vinci, depuis quelques années, redonne des baux temporaires à des agriculteurs qui reviennent continuer à exploiter ces fameuses terres pour lesquelles ils ont touché une indemnité. Cyril Bouligan ?
Oui, en gros, c'est ça. Depuis 2012, aujourd'hui, il y a eu des personnes qui ont arrêté en fait, d'exploiter des terres, soit parce qu'ils sont partis à la retraite, soit parce qu'ils ont signé, mais il n'y en a pas eu tant que ça, en fait. C'est beaucoup des départs en retraite ou des décès. Il y a eu le cas d'un décès. Du coup, il y a eu des terres qui se sont retrouvées sans bail, en fait, sans bailleur. Et du coup, la question, comme ça appartenait à AGO, qu'est-ce qu'on faisait de ces terrains-là ?
AGO Vinci.
Qu'est-ce qu'on fait de ces terrains-là ? La profession agricole là-dessus est unanime. En fait, on ne peut pas laisser des terres non exploitées. On va continuer à exploiter les terres pour l'entretien et tout ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de travaux, on continue à exploiter. Donc, les premières années, en fait, c'était AGO qui redistribuait à qui bon voulait, mais surtout à ceux à qui s'entendaient bien. En disant, je vous fais un bail pour un an, en fait, tant que ça ne bouge pas la situation. Mais par contre, du jour au lendemain, je peux vous virer et tout ça. Donc, ils redistribuaient ça. Donc, c'est des gens, en fait. Souvent qu'on touchait de l'argent en fait, qu'on récupérait des terres à l'extérieur de la ZAD parce qu'ils étaient prioritaires par rapport à d'autres paysans vu qu'ils étaient impactés par le projet pour récupérer des terrains. Et du coup, vu que la situation était figée, ils continuaient à exploiter leurs terres historiques et certains un peu plus même des terres redistribuées.
Du coup, ils se retrouvent à avoir agrandi leur exploitation.
Donc ils ont touché l'argent, ils se sont agrandis à l'extérieur et en plus ils continuent à exploiter leurs terres et ils ont encore des terres en plus temporaires à l'intérieur de la ZAD. Donc nous, au niveau paysan de Copain, mais aussi au niveau occupant de la ZAD et puis paysan résistant, on s'est dit que c'était quand même pas forcément super, qu'il y en a qui se battaient en fait, et d'autres qui récupéraient le beurre et l'argent du beurre. Donc on demandait en fait depuis un certain temps à la Chambre d'agriculture de cette redistribution, est-ce qu'on pourrait pas plutôt se mettre tous autour d'une table et voir qui en a vraiment besoin en fait de ces terrains-là.
Tous, ça serait qui ?
Tous les paysans impactés. Donc ça va de ceux avec qui on s'entend bien, avec ceux qu'on signait et que c'est un peu plus compliqué, avec les occupants illégaux, avec nous, copains, et puis peut-être avec des fermiers, en fait, alentour, que dire, en fait, il y a des gens qui en ont besoin. C'était le cas très fortement après l'opération César, la 2013, là où l'hiver était très... avec beaucoup de monde sur la zone, fortement occupé par une présence policière très forte, donc des terrains qui ont été saccagés, piétinés, avec des fouilles archéologiques qui ont été faites, donc des paysans se sont vraiment retrouvés impactés avec des surfaces en moins à produire. Donc, au lieu que ce soit redistribué n'importe comment, ces gens-là seraient peut-être prioritaires pour récupérer ces terrains que d'autres qu'on a largement assez. Donc, on s'est battu, en fait, pendant 2 ans pour essayer de se voir une redistribution plus collective qu'individuelle. Et on a réussi à l'avoir cette année, en fait. Bien que toujours chapeauté par la Chambre d'agriculture. Mais ça a été un peu une reconnaissance, en fait, du mouvement d'opposition, de la lutte, que voilà, on a notre mot à dire, en fait, sur la redistribution des terrains, quoi.
Et ça pourrait être les prémices d'une organisation à venir, une sorte d'organisation plus collective de cette répartition des terres ? Est-ce que c'est à ça que vous pensez pour la suite ?
Je pense qu'on on y pense à l'intérieur du mouvement d'opposition. Mais je crois qu'on a beaucoup de difficultés avec tout ce qui draine de la profession agricole ou administratif à l'extérieur, où là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, en fait, loin de là. Là, ils l'ont fait, en fait, cette répartition collective, parce qu'il y a vraiment besoin d'apaiser les tensions sur le terrain, en fait. Ça a permis de figer la situation pendant un an, et ça a permis, voilà, qu'il y ait moins de tensions de voisinage et de vivre ensemble qui pouvaient être plus correctes. Mais après, pour l'avenir, je crois qu'on n'est pas du tout encore sur la même longueur d'onde. Nous, on essaie d'y être au sein de... C'est les réunions que vous parliez en début de l'émission, de qu'est-ce qu'on fait de ces terrains-là après.
Il y a un terme qui revient dans les textes qui circulent, dans les textes de vous qui circulent, et j'imagine dans vos discussions, c'est le terme de communaux. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait expliquer de quoi il s'agit ? Marcel Thébault ?
Il y a plusieurs approches, quoi. Dans ce qui semble relativement posé, accepté par tout le monde, j'ai envie de dire, on réfléchit à l'avenir, mais en même temps, on se dit, comme l'a dit Camille, de toute façon, c'est un combat qui va durer, c'est à peu près clair pour tout le monde, quoi. Qu'on a de toute façon, avouant d'avoir un dénuement, on a des années à travailler ensemble. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur le fait comment on va vivre ces années-là. Est-ce que les actes qu'on a posés jusqu'à présent sont cohérents avec ce qu'on veut vivre après ? Il faut que ça aille dans le même sens, quoi. Donc, on a besoin de poser ce que pourrait être un petit peu l'avenir. Et puis... peut-être pas d'aller vite, mais d'aller plutôt dans ce sens-là. Et plus on pose des choses, plus c'est clair pour tout le monde, quoi. Tout le monde entre les différentes composantes. Donc, je veux dire par là que les paysans...
J'aimerais bien des exemples.
Oui, très concrètement, des paysans comme moi, on a besoin de se dire que quelle que soit l'organisation finale à laquelle on aboutira, nous, on pourra continuer à faire notre boulot de paysan sur les terres qu'on a depuis toujours et pour lesquelles on s'est battu, tranquillement et en faisant ce qu'on veut tel qu'on le sent, quoi, indépendamment des regards des voisins anciens et nouveaux. Et sans doute que tout ce côtoiement, toutes ces questions posées ensemble vont faire évoluer nos pratiques dans un certain sens, mais qu'on nous laisse le temps. Parce qu'on, enfin, c'est évident que quand tu as 200 personnes qui viennent ici s'installer, comme ça a été décrit, pour quand même changer un peu radicalement les choses, il y a un regard qui est porté sur ce qu'on fait. On a des voisins, et je peux entendre ça, qui disent, nous, on boit l'eau du puits là, mais on a des interrogations parce que à 500 mètres, il y a des pesticides qui ont été épandus, quoi. Et moi, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment faire tout sans pesticides, par exemple. Donc, il me faut du temps, quoi. Soit je me bats contre AGO, soit je règle mon problème de pesticides, mais moi, je dis, je ne peux pas faire les deux, tu vois. Donc, très concrètement, les paysans en place, les paysans résistants, ont besoin d'une garantie de sérénité pour l'avenir, quoi. T'as les mêmes interrogations du côté des occupants qui se disent, une fois que l'aéroport est gagné, les paysans vont dire qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on est casse-pieds, etc. Ils vont plus nous soutenir et Valls va nous mettre dehors, quoi.
C'est pas seulement le fait qu'ils font beaucoup de bruit ou je sais pas quoi, c'est aussi le fait qu'ils ont un statut extraordinairement différent,
oui,
du statut
différent et plus facile à attaquer. Oui,
oui, oui. Mais oui, ils sont beaucoup plus précaires, oui. Fragiles.
Non mais voilà. Donc sur le fond, tout le monde dit ce qui s'est passé avec le mouvement d'occupation en termes d'activités nouvelles, différentes et pour certaines très novatrices et vraiment porteuses d'avenir. Illégal ou pas légal, on s'en fiche. Ces activités-là, cet espace-là, doit pouvoir se continuer, quoi. C'est la première base, tu vois. Il reste demain, le demain qu'on veut construire, il doit y avoir de la place pour tout le monde.
Ben, c'est déjà intéressant de dire illégal ou pas légal, ou légal, on s'en fiche. C'est déjà une forme de coexistence qui est quand même assez nouvelle, quoi. Maëlle Latimier ?
Je crois qu'on est en train de décrire quelque chose qui est un territoire sur lequel on a appris à vivre ensemble, en fait. Et que quand on parle de futur, c'est un futur qu'on essaye d'envisager ensemble, avec nos modes de vie différents. Donc comme Marcel le dit, lui, il a l'envie, si le projet est abandonné, de pouvoir repartir sur des structures comme avant cette lutte-là. Mais aussi, il y a cette acceptation de ces voisins, voisines que nous, on représente là, qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans les clous. Alors... si on veut parler de chiffres, je crois qu'il y a environ 400 hectares de terres qui sont liés à ces agriculteurs en lutte et sur lesquels, en fait, finalement, le mouvement anti-aéroport a pas grand-chose à dire parce que c'est des terres qu'ils ont et elles ont refusé de lâcher et sur lesquelles c'est normal qu'ils aient le dernier mot. Il y a aussi cette idée qu'il y a 800 hectares de terre qui ont été redistribués, et là on évoque l'idée d'en faire des communaux, on parle de réserves foncières, donc avec l'envie de pouvoir discuter collectivement au sein d'un mouvement d'opposition large de qu'est-ce qu'on a envie de faire de ces terres. Est-ce que par moment on va accepter que des gens viennent s'installer parce qu'il y a des paysans sans terre quelque part qui ont un projet et qu'il y a ces terres-là qui sont disponibles? Est-ce que aussi on met en avant l'occupation des terres par des gens qui viennent du mouvement d'occupation mais qui eux vont pas avoir envie de faire un projet de manière légale et qui sont prêts à continuer à rester sur du long terme en faisant des installations de manière complètement illégale, en faisant des choses de manière alternative, en ayant une réflexion poussée sur comment est-ce qu'on produit autrement. Et puis il y a enfin 400-450 hectares de bois et de forêt, et que dans le mouvement d'occupation, il y a aussi une attention un peu forte à ce que ces terres-là, elles soient pas négligées, et que non plus elles soient pas reprises par des systèmes de grandes exploitations. On a envie aussi que on puisse sur cette zone-là laisser de la place à la nature, que les animaux aient un peu d'espace dans lequel ils puissent vivre, se reproduire, sans que ça soit forcément un enjeu économique. Voilà, donc je pense que il y a beaucoup d'usages différents des terres qui sont envisagés, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit dans la lutte ou dans cette réflexion sur le futur, c'est quelque chose qu'on peut envisager que ensemble en fait. Hein. Et c'est quelque chose qui a changé effectivement pendant ces années où le mouvement d'occupation s'est amplifié, et que c'est quelque chose qui a été bouleversé par ce qu'on a vécu ensemble au moment de la tentative complètement loupée là d'expulsion en octobre 2012. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut se faire confiance. Il y a ce noyau de confiance-là qui fait qu'on se sent capable aujourd'hui de parler de futur ensemble.
Ça, c'est certainement très fort, en effet. Mais il me semble que les deux questions les moins difficiles à résoudre, c'est justement celle des terres, des paysans, des agriculteurs qui sont restés sur place, parce que de fait, il y a un accord général pour que ces paysans-là puissent continuer à travailler sur ces terres, dont on espère qu'ils ne sont pas expropriés, finalement. Donc, dans la mesure où ils ne sont pas expropriés, il y a une sorte de logique à ce qu'ils continuent à travailler leurs terres. Et puis, il y a ces zones humides de forêt dont vous évoquez, Maëlle Latimier, et dans lesquelles, effectivement, on peut obtenir qu'elles restent à l'état brut et qu'elles puissent continuer à abriter de la faune, de la vie sauvage. Là où ça devient plus compliqué, c'est les fameuses terres qui sont aujourd'hui dans l'escarcelle de Vinci, qui est concessionnaire de l'État français. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'institutions qui sont extrêmement prégnantes en France sur le destin des terres agricoles. Je pense à la SAFER, par exemple. Donc quand vous dites on veut pouvoir redistribuer les terres à des projets de culture, d'agriculture alternative, de gens qui ne sont pas dans les clous, etc., qu'est-ce que vous faites de la SAFER? Qu'est-ce que vous faites des chambres d'agriculture? Qu'est-ce que vous faites des conseils d'orientation, Camille?
On ne sait pas exactement pour l'instant ce qu'on en fait, mais je pense que quand on parle de l'avenir, pour moi, on parle de plusieurs choses. Et on parle du présent, ça veut dire on parle de problèmes qu'on a, qui sont souvent des problèmes qu'on a dans le présent. Et on parle de, en fait, on ne va pas arrêter de se battre ici, on ne va pas accepter le retour à la normale. Et je pense, parler de retour à la normale, c'est un peu des mots d'occupants, mais je pense, quelque part aussi, tout le monde qui se retrouve dans ces discussions-là souhaite autre chose qu'un avenir... On est à 20 km de Nantes, on est en plein la métropole, et en plein un espèce de triangle Nantes-Rennes-Saint-Nazaire, où en fait le gouvernement a là des tonnes de projets différents d'infrastructures de transport, et ils veulent construire une zone tout bénef et avec vue sur la mer pour investisseurs divers et variés. L'avenir de cette zone, c'est un truc d'urbanisation, c'est un truc comme toutes les zones rurales, peut-être d'industrialisation de plus en plus de l'agriculture. Du coup, quand je dis on veut pas de retour à la normale, c'est on voudrait que cette zone, elle sorte de ses avenirs tout tracés, là, avec tous les enjeux économiques... De ce monde-là, à 20 km d'une grosse métropole, quoi. Dire ça, en fait, c'est se dire, en fait, si le projet d'aéroport saute, la lutte, elle n'est pas finie. Peut-être c'est une autre lutte, c'est différent, mais on continue à batailler, justement, pour ces terres et pour qu'il se passe quelque chose de différent que ce qui est tout tracé à 20 bornes de... Enfin, pour des terres comme ça, à 20 bornes de Nantes. Un truc que je trouve... fort aussi dans ce truc de causer l'avenir des terres, c'est qu'en fait, on est ici dans une lutte contre l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, c'est le gouvernement qui décide en fait comment aménager, maîtriser, contrôler un territoire en vue de l'optimiser un peu économiquement. Et en fait, ce qui se passe dans cette lutte, c'est justement une réappropriation forte du territoire et de projets, de comment on vit ici, de comment on s'organise ici, et entre pas mal de gens qui n'ont pas les mêmes vues, qui n'ont pas les mêmes modes de vie, qui n'ont pas les mêmes manières de voir la lutte ou les mêmes stratégies. Et justement, c'est comme si tous ensemble, on se met en prise sur ce territoire et dans le présent et aussi du coup à vouloir envisager ensemble son avenir.
Mais c'est justement pour ça que ce terme de communaux me paraît intéressant. Il renvoie à une réalité rurale ancienne. Marcel Thébault.
Les communaux traditionnellement étaient des surfaces dont a priori la commune ou un organisme collectif était propriétaire et dont l'usage était partagé entre les différents habitants de cette commune, a priori petits éleveurs en général. Quoi. C'est l'idée de mettre, ce qui est fait dans Semtazad, de mettre en commun des surfaces disponibles et de voir quels sont les besoins et d'y faire face. Ce n'est pas celle qui parle le plus aux agriculteurs en place, par exemple, parce qu'on voit... nous, on est habitués à avoir nos repères, nos parcelles, etc., faire notre petite cuisine chez nous, etc. Quoi. Ça demande un gros travail de confiance dans les autres, d'organisation et de gestion collective.
Est-ce que tout de même, vous imaginez ou vous souhaiteriez une forme d'organisation ou de gestion collective? Ou bien est-ce que vous préféreriez revenir à une situation classique, l'État gère et on s'organise sur place, chacun chez soi?
Moi, je crois qu'il faut être très clair. Du point de vue des paysans, nous, on a besoin, on s'inscrit dans la légalité et on a besoin d'avoir des outils autour de ça, quoi. Et on n'imagine pas trop, on n'imagine pas être dans un autre statut, quoi. Soit on se replie sur nos terres et avec des choses très claires, soit on fait quelque chose de plus commun. Je crois que c'est une des autres propositions, c'est-à-dire de faire une entité globale qui corresponde à la ZAD, mais il faut que cette entité réponde aux deux besoins. C'est-à-dire d'un côté les paysans et nouveaux paysans qui s'installeraient en choisissant le cadre de la légalité et on leur donne tous les éléments pour qu'ils rentrent présentables devant la Chambre d'agriculture, la SAFER, la CDOA, toutes les structures existantes, qu'ils aient les aides, etc. s'ils le veulent, avec des choix très marqués de nos valeurs ici, c'est-à-dire du respect de l'environnement, de plutôt la priorité à des structures qui vont favoriser l'emploi, à des petites structures. Les mecs qui veulent faire du maraîchage sur 2 hectares, ils trouvent pas, quoi. C'est scandaleux. Alors que tu trouves des mecs qui ont 200 hectares, ils vont encore en reprendre, quoi. Qu'on soit un lieu qui facilite infiniment ce genre de choses, ce serait une très grande réussite. Mais donc pour ça, nous, on a besoin d'un cadre légal. Et
il existe, ce cadre, aujourd'hui? Il pourrait exister?
Par exemple, ce qui se passe au Larzac n'est sans doute pas loin de ça, tu vois. Je veux dire... Et puis, on veut absolument offrir un espace de liberté à nos voisins, à des nouveaux voisins qui viendraient. Donc c'est toute cette articulation-là qui est difficile, quoi. Mais si on arrivait à avoir ces deux-là, il peut y avoir, vu les surfaces qu'on a décrites tout à l'heure, il peut y avoir une zone plus floue qui réponde à la fois aux besoins de nouveaux arrivants et aux besoins d'expansion, je dirais, temporaire ou à des besoins particuliers d'agriculteurs existants ou à des formes... on peut aussi imaginer que l'exploitation Thébault, là, elle grossisse pendant 2 ans parce qu'elle permet quelqu'un qui se fait les doigts sur l'installation, puis après, il prend son indépendance, tu vois. Donc, sur des choses plus temporaires. Je pense qu'on a réussi à poser ces choses-là et ces besoins-là sur la table. Après... on a besoin de tester quelle est l'adhésion de nos structures, de nos copains partout derrière ça, enfin de l'ensemble des militants, quelle est l'adhésion à un projet comme ça, quelle est l'adhésion des gens sur place, parce que ça c'est pas fait non plus, quoi. Sachant que demander l'adhésion des gens sur place, il faut aussi qu'il y ait un peu de sérénité, que les gens se projettent un petit peu dans l'avenir. C'est des étapes qui sont pas franchies. Et puis après, physiquement, comment? Tu vois, quelle structure? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que juridiquement, là, est-ce que ça peut se faire? Ça coule pas de source. Et puis, est-ce qu'on est tous ensemble sur ce nouveau projet, là, derrière, une fois que l'aéroport est tombé, est-ce qu'on est suffisamment modifié pour imposer un rapport de force qui fait que même si c'est pas écrit, là, ça se fera.
Oui, vous dites, est-ce qu'il serait prêt à rentrer dans cette forme juridique? Mais de ce que j'ai entendu autour de cette table ce matin, c'est est-ce qu'ils sont prêts aussi à rentrer dans ce chamboulement de l'existence au quotidien qu'implique le fait de vivre aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes? Marcel Thébault.
Les exploitants qui sont un peu pour partie propriétaires, quelques habitants qui sont propriétaires de leur maison, mais dire demain ne serait pas au quotidien, demain ne serait pas très différent de ce qu'est aujourd'hui. Donc voilà, ce qui est enthousiasmant, c'est le voisinage de gens qui veulent refaire un monde qui, à nous aussi, ne nous convient pas très bien. Donc c'est tout à fait intéressant. Et ce qui est difficile, c'est que bah, quand vous avez une population de 200-300 personnes, il y a toujours quelques gens qui posent problème. Surtout qu'ils ont regardé sur Internet que c'était chouette ici et ils viennent en pensant que tout, on peut tout faire ici et on refait le monde et donc on commence par le refaire bien, quoi. Mais voilà, donc ça fait des confrontations.
Camille ?
En tout cas, des gens qui arrivent nouvellement, c'est sûr qu'ils... Ça demande du temps de comprendre un peu finement la situation ici. Il y a plein de choses à comprendre pour que ça se passe tranquillement. Et du coup, ça, ouais, ça demande du temps et de l'énergie.
Maëlle Latimier ?
Moi, je crois qu'il y a eu un virage quand même avec la manif de... du 22 février, où qui a été une telle démonstration de force avec 40 000 personnes dans les rues de Nantes et plus de 500 tracteurs, qu'après ce virage et malgré tout l'espèce de contre-feu médiatique qu'a tenté le gouvernement pour mettre la lumière uniquement sur les violences, en fait, aujourd'hui, dans le sein de ce mouvement, on sait en fait que l'abandon du projet, il est possible. Et je pense qu'à partir de là, on est certains, certaines ici, à vouloir penser... le futur de cette zone-là, et qu'on va le faire en partant des gens qui vivent ici, en partant d'expériences d'autres luttes. Marcel parlait du Larzac, on a invité récemment des gens de Longomaille ou de communautés comme le village de l'Acabé ou comme des squatteurs et squatteuses des tanneries à Dijon pour réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un vivre ensemble où on respecterait en fait les envies de chacun, de toutes et de tous. Et forcément, ça va être plus compliqué en fait que juste quand on a un problème, appeler la gendarmerie et faire en sorte que l'État gère tout à notre place. Forcément, quand on veut prendre notre vie en main, c'est plus compliqué, mais c'est tellement plus intéressant aussi.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr, où vous retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Jean-Richard Dufour, réalisation, Michel-Ange Vinti. Bonne semaine à tous.